Mes amis, arrivé au soir de cette journée, j'aimerais introduire notre thème « Connais-toi toi-même » que nous allons considérer à la lumière du livre de Job par un texte de Romains chapitre 11. Comme nous avons commencé la journée par Jérémie, chapitre 17e, où nous avons entendu le Seigneur nous dire, au verset 9e, « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et incurable, qui le connaît ? Moi, Éternel. » Je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Et ce soir, la réflexion de l'apôtre Paul au chapitre 11 des Romains, ô profondeur des richesses et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et lui sera rendu, car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit la gloire. Éternellement. Amen. Nous sommes donc au soir du 17 juillet 1988. Et nous relevons ce défi de survoler au cours de cette semaine de premier demi-camp 21 chapitres des 42 que contient le livre de Job. Je vous ai demandé de vous préparer pour ce soir en faisant vous-même dans les petits livrets que je vous ai remis la lecture des deux premiers chapitres qui sont en prose de ce livre de Job qui fait partie, comme vous le savez, dans la Bible de ce qu'on appelle les livres poétiques, les hagiographes, qui se composent donc de Job, des psaumes, des proverbes, du cantique des cantiques, de l'Ecclésiaste, et enfin les lamentations de Jérémie. Ces livres qui sont écrits en vers. Et le livre de Job est aussi écrit essentiellement en vers, à part le prologue, c'est-à-dire les deux premiers chapitres qui introduisent l'histoire de cet homme appelé Job, et l'épilogue, c'est-à-dire le dernier chapitre qui nous est donné en prose comme conclusion de ce drame. Très souvent, on entend des gens parler de la patience de Job. Mais on se rend compte qu'ils connaissent en effet la partie en prose de ce livre, mais qu'ils ignorent, pour la plupart, le grand débat que vous trouvez dans les chapitres 3 jusqu'au chapitre 41. Je veux croire qu'à la fin de ce camp, pour ceux qui auront pu passer ces journées avec nous, que vous aurez une connaissance plus complète, plus globale et plus personnelle de ce livre qui est sans conteste un livre extraordinaire, un livre merveilleux, et peut-être, si nous donnons raison aux traditions juives et même aux traditions de l'Église, le plus ancien de tous les livres. Parce que vous savez, les théologiens changent d'idée à peu près chaque 20 années et vous disent autre chose au sujet d'un livre de la Bible. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que plus nous avançons, plus on se rend compte, avec les découvertes qui sont faites, les manuscrits qu'on a retrouvés, qu'il y a maintenant une tendance à revenir à ses premières croyances. Et pour moi, je ne vais pas m'étendre sur tout ce que l'on a dit au sujet de Job, parce que c'est peu intéressant, c'est peu convaincant, puis c'est hors de notre but. Nous voulons faire la découverte du livre de Job. Nous ne voulons pas vous parler du livre de Job. Nous voulons découvrir ensemble ce livre. Nous allons le lire ainsi, verset par verset, et c'est vous-même qui chercherez à comprendre ce que ce livre veut vous dire à vous aujourd'hui. Parce que je n'ai jamais pu croire que Dieu permettait qu'il y ait une telle histoire dans la Bible, simplement pour nous raconter une légende ou une parabole quelconque d'un homme qui n'aurait pas existé. Jésus, quand il est venu sur la terre, a trouvé ce qu'on appelait les Écritures, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, au complet. Et il a rendu témoignage à toutes les Écritures, en disant que les Écritures rendaient témoignage de lui. Et il a souligné que nous pouvions nous soumettre à l'autorité des Écritures et que pas un seul iota, pas un seul trait de lettre que vous trouvez dans les Écritures ne serait anéanti, mais que tout aurait son accomplissement. Et vous vous souvenez que lorsque nous avons abordé le Cantique des Cantiques il y a 2 ans dans ce camp, nous étions très critiqués par des gens du dehors et des gens très chrétiens qui pensaient que nous allions au-devant d'une catastrophe, d'un désastre, parler du Cantique des Cantiques à des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui, alors que le sexe est devenu un dieu. Qu'allions-nous dire de ce livre? Nous sommes déchaussés d'abord, car nous étions sur une terre sainte et nous avons pu le lire en découvrant que dans la Bible, il n'y a jamais de tabou, mais que tout est sacré. La Bible appelle les choses par leur nom. Qu'il s'agisse du corps, qu'il s'agisse de l'âme, ou qu'il s'agisse de l'esprit. Et nous avons été édifiés. Et quand j'entends parler à droite et à gauche, j'aurais dû prendre une lettre qui m'a été écrite récemment de Suisse par une personne que j'ignore, que je ne connais pas du tout, qui me dit le bien qu'elle a reçu en écoutant la première cassette du Cantique des Cantiques. Eh bien, vous verriez que ces études ont été en bénédiction. Et comme me le disait bien souvent mon ami René Pache, qui est auprès du Seigneur maintenant et qui a écrit pas mal d'ouvrages religieux, le plus beau livre de la Bible, c'est le dernier qu'on étudie. Et je veux croire que vous trouverez que le livre de Job est vraiment un livre merveilleux. Nous avons trouvé que le livre du Cantique des Cantiques, c'était vraiment l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est la révélation de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Le Cantique des Cantiques, l'Apocalypse, la révélation de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Eh bien, le livre de Job, j'aime beaucoup une pensée d'André Frossard, qui est rédacteur de Cavalier seul au Figaro, qui, un jour, je devais le rencontrer, et il était justement en train de traduire le livre de Job, et nous avons eu une conversation ensemble, et dans ce qu'il a écrit, il dit, le livre de Job, il l'est à découvrir. Il est encore à découvrir. Et je voudrais que ce soit le sentiment qui vous empoigne. Le livre de Job, il est à découvrir. Nous allons à la découverte de ce que Dieu veut nous dire à l'heure actuelle pour notre bien suprême. Mais avant de nous pencher sur le texte lui-même, je voudrais, comme il y a 2 ans, avant de commencer l'étude du Cantique des Cantiques, souligner quelle attitude nous aurons pour lire et méditer cet écrit qu'est Job. C'est à l'école de Jésus, c'est le premier point. C'est à l'école de Jésus que nous voulons être enseignés. Comme nous l'avons fait la semaine dernière. Tout apprendre de Jésus-Christ pour lui ressembler. Eh bien, pour lire le livre de Job, celui qui va nous l'ouvrir, c'est le Seigneur Jésus, le maître des maîtres, qui nous a dit d'aller à lui, car c'est lui qui donne le repos, d'apprendre de lui ses instructions pour que nous ayons aussi le repos de nos âmes. Et il a ajouté que son joug était doux et que son fardeau était léger. Mais la condition pour entrer dans cette école, Jésus nous l'a montré clairement, c'est d'abord de nous convertir. Si vous n'êtes pas converti au Seigneur, si vous êtes encore vraiment du monde, raisonnant comme le monde, vous n'aurez pas la clé pour comprendre le livre de Job. Je pourrais vous expliquer le mieux possible ces choses. Vous n'y comprendrez rien. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. En dehors de cela, vous aurez que des hypothèses, vous suivrez telle ou telle théorie, mais vous ne serez jamais convaincu et ce ne sera pas la parole de Dieu qui vous habitera vraiment et qui vous conduira dans la vie. Il faut que vous vous convertissiez, disait Jésus. C'est la condition pour entrer dans cette école. Tout à l'heure, on m'a téléphoné en me demandant les conditions de ce camp, pour entrer dans ce camp. Après l'heure de fermeture, quelles sont vos conditions? Eh bien oui, vous voyez, le monde sait qu'il y a des conditions, qu'on ne peut pas faire n'importe comment. Eh bien, pour entrer à l'école de Jésus, il faut aussi remplir certaines conditions, c'est se convertir et ensuite devenir comme des petits-enfants. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu ni y entrer et vous ne comprendrez pas. Alors, souvenez-vous de cela, si cela vous paraît trop compliqué, peut-être qu'il vous manque cette conversion. Pour Jésus, je le répète, tout l'Ancien Testament était inspiré. Et les Écritures, disait-il, parlaient de lui. Luc 24, verset 27. Et l'apôtre Paul a reconnu cette inspiration. Vous connaissez ce qu'il est dit dans Romains 15, et vous aurez tout de suite le pourquoi du livre de Job. Romains chapitre 15, et vous verrez ce que nous pourrons trouver dans le livre de Job. Verset 4 du chapitre 15. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Chapitre 15, verset 4. Nous devons donc découvrir une espérance vivante, en lisant ce livre de Job. Puis au chapitre 10 de 1 Corinthiens, nous lisons ceci après le texte de Romains chapitre 15. Je cite encore 1 Corinthiens, chapitre 10e, où il est dit que tout ce qui est arrivé aux Israélites, bien que Job, comme nous le verrons, n'était pas un Israélite, mais enfin, tout ce qui est arrivé à ces hommes dont la vie nous est racontée dans la Bible, leur est arrivé à titre d'exemple, et cela fut écrit. Alors comprenez-le bien que ça nous concerne. Pour nous avertir, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et un dernier texte du livre de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Car la parole de Dieu, verset 12, est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est mis à nu. Et voyez-vous, au cours de ces journées, vos cœurs seront mis à nu. Dieu les connaît. Peut-être que vous ne vous connaissez pas vous-même, mais Dieu va apprendre à vous connaître. Et comme nous le croyons, il faut que nous ayons cette connaissance pour pouvoir suivre Jésus et être vraiment authentiquement ses disciples. Car tout l'évangile se résume dans cette parole: si tu veux être mon disciple, si tu veux me suivre,
renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. Mais pour renoncer à soi-même, il faut avoir fait la découverte de ce que nous sommes. Et tant que vous vous croyez supérieur, tant que vous vous croyez juste, tant que vous pensez que vous êtes quand même un peu mieux que les autres, eh bien, vous ne pouvez pas vous quitter vous-même. Et votre trouble le plus grand, c'est au fond vous-même. Tant que vous n'avez pas renoncé à vous-même. Et vous dites, mais alors qu'est-ce que j'aurai si je renonce à moi-même? Mais tu auras tout. Tu auras celui qui seul nous donne une raison de vivre. Car quand on n'a pas renoncé à soi-même, tôt ou tard, on en arrive, comme Jean-Paul Sartre le montrait, à cette fameuse nausée qui nous conduit tout droit au suicide, parce que l'écœurement est si grand qu'on ne peut plus se supporter. Tandis que quand on a appris à se connaître à l'école du Seigneur, une fois qu'on a vu ce que nous étions, le Seigneur, au lieu de nous écraser, nous relève et nous donne une vie vraiment nouvelle qui vaut la peine d'être vécu. Notre vie a un sens. Nous savons pourquoi nous sommes nés. Nous savons pourquoi nous sommes ici-bas. Pourquoi nous avons à éprouver certaines épreuves. Et nous sommes réconciliés avec Dieu, le Dieu vivant, au sujet de toutes les afflictions qui peuvent survenir au cours de notre vie. Parce que nous avons compris. Et c'est pourquoi je vous ai lu ce verset du chapitre 11 des Hébreux, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, que ces voies sont introuvables, que ces jugements sont insondables, mais nous lui faisons éperdument confiance. Pour quelle raison? Parce que nous comprenons? Non, mais parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Je l'ai dit et je le répète comme Clavel l'a dit. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Alors, s'il est Dieu, prosternons-nous. Prosternons-nous. Reconnaissons sa grandeur, sa divinité. Quand vous pensez à une injustice à l'égard de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu que vous parlez. Ou à un manque de puissance, mais ce n'est pas de Dieu que vous parlez. Il est le Tout-Puissant. Il est le seul juste. Il est le seul saint. Il n'y a aucune iniquité en lui. Alors vous devez être des hommes et des femmes qui ne remettent plus toujours en question la puissance ou la bonté de Dieu ou l'existence de Dieu. Ou comme ces gens qui nous disent, j'aime mieux dire que Dieu n'existe pas, parce que s'il existe, je trouve qu'il est un monstre. Et oui, c'est des choses que nous entendons quand nous sommes en contact avec les âmes, et surtout avec ceux qui souffrent, sans savoir pourquoi ils souffrent. Quoique, je ne pense pas du tout que le livre de Job soit un traité sur la souffrance, comme beaucoup le disent. Quant à parler justement du sujet que traite le livre de Job, les opinions les plus diverses ont été émises. Quel est le sujet du livre de Job? Je ne veux pas vous demander ce que vous pensez, on ne l'a pas encore lu. Enfin, je veux croire que vous l'avez lu, je voudrais le croire. Mais j'ai rencontré un tas de gens, des pasteurs, qui m'ont dit, moi, je ne comprends pas du tout le livre de Job. On nous dit que c'est un traité sur la souffrance, mais ça ne résout rien. Et en effet, ce n'est pas un traité sur la souffrance, ça ne résout rien, le livre de Job. Alors, quelle est la raison de ce livre pour nous? C'est ce que nous allons chercher à découvrir ensemble. Car ce livre de Job, pour se trouver au milieu de la Bible, de l'écriture des Israélites, eh bien, c'est comme un donjon au centre de la Bible. Vous savez que le livre de Job est au centre de la Bible. Il s'élève là comme un donjon. Eh bien, nous voudrions pénétrer dans ce donjon et peut-être entrer dans ce qui nous paraît être des oubliettes même. Il y a des passages difficiles à comprendre dans le livre de Job. Il y a des labyrinthes. Eh bien, nous passerons par ces labyrinthes. Nous irons même jusque dans les oubliettes, s'il le faut. Mais nous visiterons le donjon. Et puis, nous espérons que nous aurons un jour la joie, dans ce temps même, d'être au sommet de ce donjon et de comprendre ce que le Seigneur avait à nous dire. Quant à savoir si Job est un personnage historique, eh bien, nous allons simplement vous dire que nous croyons les Écritures. Dans l'Épître de Jacques, Jacques rend ce témoignage au chapitre 5, au verset 11, en disant « Vous avez entendu parler de la patience de Job. » Jacques ne prendrait pas cet exemple si Job n'avait pas été un homme réel. « Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Donc, pour Jacques, Job était un être auquel le Seigneur a accordé une fin qui est tout à fait spéciale. Et quelle a été cette fin que le Seigneur lui a accordée? Il lui a donné le double de tout ce qu'il possédait. C'est le Seigneur qui a accordé une telle fin à Job. Donc Job est un être historique. Maintenant, vous auriez dans l'Ancien Testament un autre texte que je vous cite en passant. Vous le connaissez tous certainement. C'est au chapitre 14 d'Ézéchiel où Job est nommé entre Noé, qui est un être qu'on reconnaît comme historique, et Daniel. Daniel, que nous croyons être ce prophète qui vivait en exil dans la captivité et qui fut ministre au temps de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et au temps des Mèdes et des Perses. Ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, qui sont reconnus comme trois grands intercesseurs, eh bien, il est dit que si ces trois hommes se trouvaient en Israël à un certain moment, eh bien, même leurs prières ne seraient pas exaucées, parce que l'état d'Israël devenait tel que Dieu voulait juger. Et nous sommes dans un temps semblable à celui de Noé, comme le Seigneur nous a averti. Concernant son retour, il nous dit que cela se passerait à une époque semblable à celle de Noé, et à une époque semblable à celle laquelle? De Sodome et de Gomorre. Ça vous dit quelque chose, le sida? Ce sera dans une époque effroyable. Mais le Seigneur est proche. Quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête. Il n'est pas dit le jour, il n'est pas dit l'heure, et nous ne sommes pas fous pour aller plus loin que ce que la parole de Dieu nous dit, mais nous pressentons que nous sommes dans un temps proche de ces événements qui doivent être ceux de la fin et de cette grande tentation eschatologique qui doit venir sur le monde habité tout entier. Cette tentation dont Jésus apprenait à ses disciples à prier ainsi ne nous induis pas, ne nous induis pas en tentation. C'est pas simplement de la tentation quotidienne, mais de cette grande tentation qui vient et à laquelle nous le croyons, l'Église du Dieu vivant, cette Église que Dieu reconnaît pour sienne, le corps de Christ sera enlevé avant cette tribulation. Nous allons essayer maintenant de découvrir quel est vraiment le sujet de ce livre de Job. Car pour nous, Job a existé. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ce livre? Je vous ai, hier soir, je crois, dit comment nous étudierions ce livre. D'abord, vous avez vu ce que j'ai mis sur la couverture. Vous avez compris, je pense, que ça a un rapport avec cette parole où il est dit que Dieu parla du sein du tourbillon. Je ne me permettrai pas de représenter Dieu. Mais il y a un texte dans Job qui dit « Connais-tu le chemin des nuages ?» Eh bien oui, voilà. Du sein de la tempête, vous voyez la terre ici, du sein d'un tourbillon, du sein de la tempête, de ces nuages, le Seigneur a parlé à Job. Et maintenant, nous en faisons le simple commentaire. Aujourd'hui, nous avons 35 versets à considérer. Et je dirais que selon ces rabbins juifs que nous avons, qui sont appelés les Massorètes, et qui ont vécu du 6e au 10e siècle, et qui se sont consacrés à fixer définitivement le texte historique de la Bible jusque dans ses moindres détails, puisque c'est eux qui ont ajouté les points à l'hébreu écrit et qui ne comprenaient jusque-là que des consonnes. Eh bien, selon ces Massorètes, qui étaient des hommes extrêmement instruits et très précis, le livre de Job contient 42 chapitres et 1070 versets, et il comptait même que le milieu du texte se trouve au chapitre 16, au verset 16 du chapitre 22e, où il est dit que certains seront anéantis avant le temps. Alors, dans cette première semaine, et dès ce soir, jusqu'à vendredi matin, nous étudierons les 20 premiers chapitres, soit 520 versets. Il n'y aura pas d'étude, comme je l'ai souligné le vendredi soir, ça sera la dernière journée du premier camp, et cette soirée vous sera entièrement consacrée. C'est à vous de parler. Et samedi soir, après l'ouverture du deuxième camp, bien nous ferons un résumé des études de notre première semaine et des dimanches soirs, soit le 24 juillet, avec le chapitre 22e de Job, nous aborderons les 550 versets qui doivent nous conduire à la fin du livre et à cette fin du Seigneur qui fut accordée à Job. Est-ce que vous avez lu ces deux chapitres? Donc je ne m'en vais pas les relire, mais nous allons simplement essayer de comprendre. Alors, si vous avez un crayon et un papier, notez les questions qui se posent à vous. C'est la méthode que nous prendrons ces jours. C'est à vous de lire, et puis dans le commentaire que je ferai, vous notez les questions qui ne sont pas claires pour vous, et puis nous aurons les moments
pour y répondre, Dieu voulant, selon la grâce que le Seigneur nous donnera. Il y avait dans le pays d'Ouz. Ce n'est pas important de définir géographiquement où on pense que se trouvait ce pays d'Ouz. Il y a différentes suppositions, on n'est pas très sûr, mais en tout cas, c'est dans l'Arabie. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Et qu'est-ce que nous apprenons de cet homme ? Cet homme était intègre et droit. Il n'y a pas de difficulté à comprendre ces mots. Je ne pense pas que j'ai à m'arrêter sur ce qu'est l'intégrité et la droiture, quoique nous vivions dans un monde où on ne connaît guère cette intégrité et cette droiture. C'est la corruption et c'est le mensonge qui règne du haut en bas de l'échelle sociale. Eh bien, là, dans ce pays d'Ouz, il y avait un homme qui était intègre et droit. Qu'est-ce que devrait être un chrétien aujourd'hui ? Intègre et droit. Voilà une première leçon pour nous. Un homme régénéré, un homme qui est au Seigneur, qui est né de nouveau, c'est un homme qui est intègre et droit. Les caractères que vous allez trouver en Job sont les caractères qui devraient nous manifester nous-mêmes. Et non seulement cela, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui ? Est-ce que la crainte de Dieu est ce que vous rencontrez le plus dans ce monde ? Les gens ne craignent pas Dieu. Je ne crains pas Dieu. Qui est Dieu ? On ne sait pas même qui il est. De sorte que un chrétien, qu'est-ce qui devrait le caractériser ? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous aurez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu habite dans vos cœurs. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est la peur de lui des pères. C'est la peur de faire quelque chose que le Seigneur, le Tout-Puissant, qui nous voit, aux yeux duquel toutes choses sont nues et découvertes. Mais c'est cette idée. Mais si je ne suis pas dans ses voies, eh bien, je déplais au souverain que tôt ou tard, je devrais rencontrer. Parce que vous pouvez vivre des jours sans nombre, en tournant le dos à Dieu. Ne vous figurez pas que vous n'allez pas rencontrer Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Tu peux tourner le dos à Dieu, tu peux marcher dans tes propres voies, mais au bout du chemin, ce n'est pas le diable que tu vas rencontrer. Jamais de la vie. Le diable n'est au bout d'eau. Que tu aies à la droite ou que tu aies à la gauche, c'est Dieu. Mais quel Dieu vas-tu rencontrer ? Les uns rencontrent un Dieu qui est un Père, avec lequel ils ont été réconciliés par Jésus-Christ, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ils tombent dans les bras éternels, dans les bras de ce Père au cœur de mère. Alors c'est la joie et c'est la paix. Les autres rencontrent Dieu, mais le Dieu souverain, le Dieu qui est juge, le Dieu qui a fait le soleil, qui est plus éclatant que le soleil, et ils ne peuvent pas subsister dans cette lumière, et ils s'enfuient dans les ténèbres du dehors. Ils étaient dans les ténèbres du dedans, et ils s'en vont dans les ténèbres du dehors, par leur propre faute. Étant toujours dans la même nature, ils ne peuvent pas supporter l'éclat de la présence de Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Seuls ceux qui sont recouverts de la justice de Jésus-Christ peuvent subsister devant Dieu. Donc, tout ce qui nous est dit de Job, en quelque sorte, concerne un racheté du Seigneur.
un enfant de Dieu, la crainte de Dieu, l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est le commencement de la sagesse, nous dit toutes les Écritures. Et puis, s'écarter du mal, mais c'est cela l'intelligence. C'est ce que nous verrons au chapitre 28 de Job. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Il y a une définition merveilleuse au chapitre 28 de Job. L'intelligence, ce n'est pas tous les titres que vous pouvez acquérir. L'intelligence, c'est se retirer du mal. Or, dans le chapitre 3 des Romains, il est dit que nul n'est intelligent. Aujourd'hui, les gens les plus savants manquent de cette intelligence. Tout ce qu'ils produisent est en vue de la destruction même de la planète. Et ils le savent, et ils ont peur. Eh bien, je reviens à Job, et voilà tout de suite, vous comprenez que dès les premiers versets, nous sommes concernés. Parce que, au fond, Job est le type du croyant authentique qui devrait être caractérisé par cette perfection. Et comme nous le verrons plus tard, Dieu lui-même témoigne que Job est un homme parfait, droit, craignant Dieu, se retirant du mal. C'est ce que Dieu voudrait dire de tous ceux qui portent le nom de son fils aujourd'hui. Et alors, cet homme était béni de bien des manières. Verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Quel malheur! Une grande famille. C'était bon pour les Québécois d'autrefois. Mais ses fils et 3 filles aujourd'hui, quelle catastrophe! Malgré la pilule, malgré tous les moyens anticonceptionnels, avoir 7 fils et 3 filles, quelle charge! Dans ce temps-là, c'était une bénédiction. Les fils sont un héritage, dit un psaume, le psaume 127. Et le fruit des entrailles est une catastrophe? Non, c'est une récompense. Une récompense. Comme on est loin de la parole. Oh, mes amis, nous sommes en pleine apostasie. Nous sommes loin de la parole. Et Job, lui, vivait au pays des hommes sans Bible, comme nous le verrons. Mais il avait 7 fils et 3 filles, donc c'était complet. Puis, il avait des richesses. Son troupeau, parce que de ce temps-là, on comptait les richesses, surtout par les têtes du troupeau. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était considérable. Et nous apprenons qu'il avait un très bon personnel, des serviteurs avec lesquels il n'y avait pas de contestation. Parce que vous savez, du temps de Job, qui était un patriarche, comme nous allons le voir, nous en rendre compte petit à petit, il y avait déjà des contestations. Eh bien, il dit, j'écoutais ceux qui contestaient avec moi. Il n'y avait pas besoin de syndicats. Il y avait des entretiens, pas comme à Bel Téléphone aujourd'hui. Il n'y a pas d'entretien. Eh bien, du temps de Job, il y avait des entretiens. Il y avait communication. Vous voyez comme on est dans un pays de non-sens. Son troupeau était de 7000 brebis. Et je note tout cela pour vous dire que tout cela, il va le perdre. Hein, mais Dieu les a comptés. Il a compté ici, notez bien cela, hein, tous sa richesse. Il les avait encore. Mais quand il fera question de lui rendre, puisque je m'en vais déjà un peu trop loin, parce qu'on n'a pas lu le dernier chapitre, il fera question de lui rendre, qu'est-ce que vous remarquerez? Dieu lui rend le double. Donc, il s'est souvenu de ce qu'il lui avait enlevé. Et c'est ça qui est merveilleux. Je voudrais que vous en soyez convaincus que si on vous enlève quelque chose, et que Dieu permet qu'on vous enlève quelque chose, lui s'en souvient. Et il vous rendra le double si vous pouvez accepter dans la confiance et la paix. Alors, voilà pourquoi, parce qu'on dit, mais pourquoi est-ce que tu nous as parlé, ça ne nous intéresse pas, 3000 chameaux, 5000 ânesses, son personnel était trop nombreux. Rien ne nous intéresse que nous. Hein, et notre compte en banque, alors ça nous intéresse. Hein, de dire combien on en a des mille, si on en a. Hein, ça, on est intéressé parce que nous possédons. Ou peut-être parce que nous envions posséder. Ce que nous voudrions avoir au gros lot de la loterie, hein, ça nous intéresserait. Hein. Mais lire cela, qu'un homme avait tous ces biens-là, ça peut nous faire à nous. Ben oui, ça me fait quelque chose. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc, nous voyons déjà que le pays d'Outz se trouve en Orient. Et puis, que Job était un homme considérable, peut-être était-il un prince, peut-être était-il un roi, tout cela va nous être montré plus tard, mais nous n'allons pas plus loin que le texte. Et puis, sa famille, eh bien, on avait de bonnes relations, ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, donc ils se visitaient, tandis que bien souvent, aujourd'hui, on ne sait plus se visiter, entre eux, tour à tour, pour donner un festin, et ils envoyaient une invitation à leur sœur. Ils n'avaient pas oublié leur sœur, ils ne méprisaient pas leur sœur. Ils ne se réjouissaient pas sans avoir auprès d'eux leur sœur. La femme n'était pas négligée. Et quand les jours de festin, alors là vous pourriez voir comment se faisaient les festins autrefois, étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifier. Voilà un père qui avait le souci moral de la vertu de ses enfants. Même que ses enfants étaient probablement mariés, que ses enfants étaient éloignés de la maison paternelle, eh bien, Job avait un souci pour ses fils. Et voyez-vous, il se disait toujours qu'il y a quelques dangers dans les festins. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous allez dans un festin ou un repas de noces, il y a toujours quelqu'un pour trop boire ou pour dire des choses à double sens. J'étais à Florence il y a un mois et à un grand mariage où il y avait 300 invités, et je me suis bien rendu compte qu'on aimait, à l'occasion de ce mariage, tenir certains propos, et tout semble axé sur le sexe, comme si le mariage, ben, c'était que ça. Or, ce n'est pas que ça, c'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Il y a autre chose dans le mariage, car s'il n'y a que le sexe, ça ne tient pas longtemps. Alors, que le Seigneur nous garde. Et c'est tellement facile de dire des choses à double sens et de contrister le Saint-Esprit. Alors, Job était conscient de ses dangers. Alors, il se levait de bon matin. Vous pourriez faire une étude biblique à travers toute la Bible sur les gens qui savent se lever de bon matin. Et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. C'est-à-dire un sacrifice. Qui est-ce qui avait en premier lieu offert un holocauste? C'est Abel, n'est-ce pas? Qui avait compris que pour honorer Dieu, eh bien, ses œuvres ne pouvaient pas le sauver, et qui avait déjà compris qu'il fallait que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, qu'est-ce qu'il offrait comme holocauste? Des agneaux de son troupeau. Donc, c'était l'Holocauste, ce qui nous montre bien que Job vivait avant Moïse. Ça, c'est un fait que nous pouvons reconnaître. Job vivait avant Moïse, parce que ce n'est pas du tout l'Holocauste du Lévitique. Car l'Holocauste du Lévitique était entièrement brûlé, consumé, sur le feu de l'autel. Donc, ce n'était pas encore ces sacrifices du Lévitique qui sont dits sacrifices pour le péché. nous sommes dans la période où le péché n'était pas mis en compte. Il y avait l'Holocauste pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, c'était l'Holocauste, tout montait vers Dieu. Mais il n'y avait pas encore de sacrifice pour le péché, parce que jusqu'à Moïse, jusqu'au temps de la loi, le péché n'était pas mis en compte. Vous avez fait dans le chapitre 5 de Jean. Et c'est ça qui est passionnant, n'est-ce pas? De voir que dans un temps très reculé, il y avait même chez des hommes qui vivaient peut-être au temps d'Abraham ou même avant Abraham, eh bien, il y avait des hommes qui avaient conservé, je pense même qu'ils vivaient avant Abraham, qui avaient conservé cette notion du Créateur. Cette notion pure du Créateur, que vous trouvez dans le chapitre premier des Romains, où il est dit que les hommes ont connu Dieu, mais ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, le cœur destitué d'intelligence fut rendu rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image d'abord d'hommes corruptibles, puis de quadrupèdes, puis d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Vous voyez qu'il y a une évolution régressive. Et pour finir, on a adoré la pierre, comme on a adoré aussi les astres. Eh bien, nous allons voir au cours de notre lecture de Job que Job nous dit qu'il n'a jamais adoré les astres. Il n'a jamais adoré les astres. Donc, Dieu vous montre qu'en tout temps, dans toute époque et dans toute nation, il a pu se laisser un témoignage. Et Job était un témoin de Dieu dans ses temps les plus reculés, avant que la loi ait été donnée. Parce que la nature tout entière rend témoignage d'un Créateur, et cette nature est suffisante, car elle parle elle-même, pour nous rendre nous-mêmes inexcusables. Nous sommes inexcusables de vivre comme si nous n'avions pas la révélation de Dieu dans la nature. Mais je vous ai demandé de me dire si vous aviez trouvé dans ce chapitre une pensée qui vous donne déjà l'explication du pourquoi des épreuves qui vont surgir pour Job. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait pour chacun de ses fils un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Vous voyez, c'était pas même un péché visible, mais c'était une pensée, le péché en pensée. Job avait déjà cela dans sa sensibilité. Et c'est ainsi que Job agissait toujours. C'était pas simplement une fois, mais il le faisait toujours. Est-ce que vous avez une pensée? Exact. Job faisait des sacrifices pour ses enfants, mais pour lui, il pensait qu'il n'en avait pas besoin. Vous comprenez? Il pensait que lui, il était si droit, si intègre, qu'il n'en avait pas besoin, qu'il était, lui, impeccable. Les autres, oui, ils peuvent avoir besoin, les autres peuvent penser du mal. Et nous, les chrétiens, chers amis, nous pensons toujours que les autres ont besoin d'être sauvés. Mais nous, est-ce que nous n'avons pas besoin d'être sauvés tous les jours? Nous voulons toujours que les autres soient sauvés, mais votre propre salut à vous. Est-ce que vous y songez? Eh bien, il y avait donc une lacune que vous pouvez déjà voir ici, c'est que Job, lui, pensait aux autres, oui, à ses fils, mais il s'oubliait lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas intègre et droit, hein. Mais au fond, il lui manquait cette connaissance qu'un jour nous devons avoir, que même sauvée, que même rachetée, notre chair n'est pas améliorée. Et pour qu'on puisse voir ce qu'est la chair, il faudra une terrible épreuve pour que Job manifeste tout ce qui pouvait être en lui. Hein? Pour qu'il sorte de ses gonds et qu'on voit comment cet homme, qui était si remarquable, pouvait avoir des pensées qui risquaient quand même d'offenser Dieu. Et c'est cela, mes amis, que le Seigneur veut pour nous. S'il permet les épreuves, ce n'est jamais pour vous enlever quelque chose, mais c'est pour vous donner plus et mieux. Alors maintenant que nous avons eu la scène terrestre, passons rapidement à la scène céleste. Or, il y a comme un voile qui se lève et on a cette vision dans les cieux. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Dans cette maison du Père, dans cette maison céleste, eh bien, il y a plusieurs demeures, et voilà, dans une des salles de la maison du Père, à époque régulière, les fils de Dieu, qui sont les fils de Dieu? Ce sont les anges, nous pourrions voir d'autres textes qui vous montrent que ce sont des anges, qui viennent rendre compte de leur mission. Les anges sont des esprits administrateur employé envers ceux qui doivent hériter du salut. Et puis, Satan aussi. Pourquoi Satan? Parce qu'il était un ange, il était le chef des anges, il était le porteur de lumière, Lucifer. Nous apprenons ça dans le chapitre 14 d'Ésaïe et aussi dans le chapitre 28 d'Ézéchiel, le chérubin oint qui régnait dans le premier Éden. Alors, Satan, qui n'a pas été détruit après sa révolte, et qui était donc de vouloir supplanter Dieu, l'Éternel parle à Satan, Satan à son entrée auprès de Dieu. Et il lui dit, d'où viens-tu, Satan? Alors, on apprend, je ne sais pas si vous croyez au diable, hein, ça, vous verrez plus loin, mais il lui pose une question, d'où viens-tu, Satan? Et vous voyez ce que Satan fait. Il a du temps pour se promener. Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Mais vous avez vu que je vous ai lu un autre texte hier soir. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin de se montrer fort à l'égard de celui qui a un cœur tout entier à lui. Alors Job était un de ces hommes qui avait un cœur tout entier à lui. Tout entier pour le Seigneur, tout entier pour Dieu, et alors Dieu le bénissait, parce que Job se souvenait de Dieu. Mais le diable aussi parcourait toute la terre, et puis il s'y promenait. On a souvent fait remarquer que quand il voit le monde s'amuser et commettre toutes ses infamies, eh bien, le diable le laisse tranquille. Pourquoi est-ce que les gens du monde ont souvent moins d'épreuves que les chrétiens? C'est parce que ils ne sont pas dangereux, ces gens du monde. Ils sont déjà dans leur état de perdition. Mais quand ils voient un chrétien, ça, c'est quelqu'un qui l'ennuie, parce qu'il est un témoignage. Il a une vie d'intégrité qui fait envie. Et alors il faudrait le détruire, il faudrait détruire son témoignage, il faudrait amener cet homme qui jusque-là a glorifié Dieu, il faudrait l'amener à maudire Dieu, il faudrait l'amener à blasphémer. C'est pourquoi le chrétien a beaucoup plus de lutte et de combat après sa conversion qu'avant. Avant il se laissait aller à tous ses désirs, tandis que maintenant il veut suivre son Seigneur. Et le diable nous dit, ce qu'il fait, il parcourt la terre et il s'y promène. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» On dit, mais pourquoi est-ce que Dieu suscite cette question-là? Pourquoi est-ce qu'il parle de Job? Parce que ça va justement attirer l'attention de Satan. Qui est-ce qui a pris cette responsabilité de parler de Job? C'est pas Satan, c'est Dieu. Dieu qui dit, Ah, Satan, est-ce que tu as vu alors mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Mais c'est ce que devraient être les croyants, les disciples de Jésus. C'est le témoignage que Dieu devrait rendre de tout homme et de toute femme née de nouveau, des gens qui savent faire la différence entre le bien et le mal et qui savent s'écarter du mal, qui sont reconnus par leur intégrité. Alors Satan ne se gêne pas, et il répond à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Mais c'est exactement ce que vous entendez dans ce monde. Quand une famille chrétienne est bénie, automatiquement, ils ont tout. N'est-ce pas ? On n'arrive pas à comprendre qu'il y a une bénédiction de Dieu. Mais voyez-vous, pour nous les chrétiens, nos bénédictions ne sont pas comme celles de Job, des bénédictions terrestres. Ce sont des bénédictions célestes. Et nous avons plus que Job ne pouvait avoir. Car si vous faites ce parallèle que j'essaye de vous montrer en prenant dans cette lecture un enseignement actuel, eh bien nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Relisez Éphésiens chapitre 1er, relisez 1 Pierre ou 2 Pierre chapitre 1er, où vous verrez que nous avons reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et vous pourrez recevoir de cette lecture un enseignement vraiment vivant qui vous concerne. Alors, il y a une accusation qui a été portée contre Job et qui est portée au fond contre les croyants. Nous servons Dieu par intérêt. Ça fait notre affaire. Parce que ces gens-là, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas protégés. Lui et sa maison et tout ce qui lui appartient. Parce que le témoignage d'un homme, s'il est béni, il rejaillit sur ses enfants, ça c'est certain aussi. Et tu l'as béni dans l'œuvre de ses mains, son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Voilà l'accusation de Satan. Et voilà pourquoi Dieu relève lui aussi le défi et permet à Satan d'éprouver Job. Mais le diable ne peut pas faire plus que Dieu ne le lui permet. Alors quand vous avez compris cela, mais Job, lui, souvenez-vous de cela, il n'avait pas le livre de Job pour lui expliquer sa souffrance. Il ne savait pas qu'il avait été accusé dans le ciel. Tandis que nous avons toute l'écriture qui nous montre que le travail de Satan, c'est l'accusateur des frères qui se tient devant Dieu jour et nuit et qui nous accuse. Et alors, il nous faut tenir ferme, c'est ça le combat de la foi. La lutte du chrétien est de sauver, c'est pas, oh ben voilà, j'ai cru, je n'irai pas en enfer, le jour de ma mort, j'irai vers le Seigneur. Si c'est ça votre salut, eh bien, zut. J'espère bien que ce n'est pas cela votre salut. Que vous n'êtes pas sauvé pour vivre la vie que vous voulez, ça n'a rien changé à votre manière de vivre, vous vivez comme le monde, et puis après vous espérez aller au ciel parce que vous avez cru au Seigneur Jésus. Mais quel Seigneur Jésus ? Qui vous demandait de renoncer à vous-même, qui vous demandait de vous donner à lui pour qu'il puisse vous saisir, pour qu'il puisse faire avec vous sa volonté, pour que vous soyez les instruments de son cœur. C'est la dernière heure et Dieu veut les instruments de son cœur. Et ces instruments de son cœur, s'il ne peut pas les avoir ici, dans ce Canada dit chrétien, il ira peut-être les chercher en Russie, chez les communistes qui se convertiront au Seigneur pour accomplir sa volonté. Tandis que nous qui connaissons toutes ces choses, nous voulons le ciel et nous voulons la terre. Puissions-nous comprendre que nous sommes dans la main de Dieu et que si nous sommes éprouvés,
Dieu le permet pour nous amener à plus de sainteté, pas parce qu'il ne nous aime pas. Voici tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient dans tes mains. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Vous voyez, Satan ne peut pas aller plus loin. Alors, immédiatement, Satan sort de la présence de l'Éternel. Et un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. » Les Sabéens, c'est une tribu arabe. « Les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je suis moi seul resté pour te l'annoncer. » Il parlait encore et c'est un second malheur. Lorsqu'un autre vint, elle lui dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore, et c'est le troisième malheur. Lorsqu'un autre vint, elle dit, « Des Chaldéens formés en trois bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. » Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Vous avez lu cela, alors je passe rapidement, on survole. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient. C'était le grand festival dans la famille et dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Elles sont mortes. Je suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Alors voilà, quatre épreuves successives. Comment Job va-t-il réagir? Il apprend qu'il est ruiné et il apprend qu'il a perdu tous ceux qu'il aimait, ses enfants, qui étaient si chers à son cœur. Eh bien, Job se lève. Il déchire son manteau. Il n'est pas stoïque du tout dans l'épreuve. Mais il porte là tous les signes de deuil. Il déchire son manteau, comme on fait en Orient. Il rase sa tête. On pourrait vous donner d'autres exemples dans la Genèse. C'est comme cela au temps du patriarche. Jacob a déchiré ses vêtements quand il a su que Joseph, soi-disant, était mort. Et puis, les frères de Joseph, quand ils se sont vus coupables, ils ont déchiré aussi leurs vêtements. Et que dira Job? Il se prosterne. Voilà un adorateur, déjà un adorateur. Il se prosterne et il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Vous connaissez ce passage, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Eh bien, c'est ce qui devrait nous caractériser, nous chrétiens, quelle que soit l'épreuve que nous devions traverser. Et vous avez le chapitre 2, de nouveau le voile se lève. Au fond, le Seigneur a eu la première manche. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est tout ce qu'il fait. Le prince se monte, mais il se promène et il parcourt la terre avec vitesse. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Et c'est ce que Dieu voudrait pouvoir dire des croyants de cette fin du siècle. « C'est un homme intègre et droit. » N'est pas télé-évangéliste. Qui craint Dieu et s'écarte du mal. Vous voyez les scandales au nom de la religion aujourd'hui. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous voyez, quand le diable vous dit qu'il est sûr, est-ce qu'il est sûr? Il croit être sûr,
mais il est déjà vaincu. Il se croit fort, mais vous aussi, vous devez être conscient que quand le diable dit qu'il est sûr pour vous, mais rien n'est sûr avec Satan. C'est un trompeur. Il vous fait croire que c'est le bon chemin, et il sait très bien que c'est une voie de mort que vous allez rencontrer. Satan est un menteur et un meurtrier. Il voudrait vous détruire. N'ajoutez pas foi à ces paroles. Et alors, que va répondre le Seigneur? Eh bien, le Seigneur relève encore une fois le défi et il dit à Satan, mais vous voyez que Satan ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Et c'est pour ça que je veux que vous compreniez bien pourquoi Dieu permet certaines choses. Il ne veut pas certaines choses, mais il permet certaines choses. Le voici en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Tu peux l'éprouver d'une certaine manière, c'est pourquoi qu'il est dit que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et alors Job est dans une si grande pauvreté, et dans une si grande douleur, cette démangeaison, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Puis alors, le seul être que le diable ne touche pas et qu'il laisse, c'est pour aider Job. Qu'est-ce qui pourrait soigner Job? Sa femme. Mais c'est pas elle qui veut le soigner. Quand il était bien, quand il était riche, quand vous prononcez des vœux devant le maire ou ici devant le prêtre ou devant le pasteur qui représente l'état civil, eh bien qu'est-ce que vous dites? Pour les bons et les mauvais jours. C'était les mauvais jours pour Job. Alors que va faire la femme? Elle ne se souvient pas de sa promesse. Que va faire la femme maintenant que les mauvais jours sont passés? J'ai vécu quelque chose ici au Québec il y a 2 ans, et certains savent de qui je parle. Eh bien, tout à coup, après 7 ans de divorce, elle a entendu cette parole dans son cœur. Pour les bons et les mauvais jours. Et les mauvais jours étant venus pour son mari, elle est retournée vers lui et Dieu l'a bénie. Elle a rendu témoignage l'année passée, ici même. Voilà ce que Dieu peut faire. Nous rappeler ce que l'on a dit au sujet des mauvais jours. Alors elle s'approche de Job, sa femme. Et elle lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. Comme ça, elle ne le verra plus souffrir. Et comment Job répond à sa femme? Je trouve toujours ça admirable. Il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quand on est marié femme, il y a des fois des conversations qui ne correspondent pas trop. Mais même si notre femme ou si le mari dit des choses qui sont pas justes, pourquoi se mettre en colère? Pourquoi injurier? Répondre à une injure par une injure? Job n'injurie pas. Tu parles, il lui dit pas que tu es une insensée. Il lui dit tu parles comme parlerait une insensée. Il comprend encore que sa femme n'en peut plus, mais il lui montre que l'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, ou l'insensé se révolte. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal, et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Eh bien, que Dieu nous garde, et que nous puissions être conscients de ce qu'il attend aussi de nous aujourd'hui. Et alors, le drame, eh bien, vous voyez, combien y a-t-il d'épreuves jusqu'à présent? Vous les avez comptés? 4 qui concernent les biens et les enfants. 5, c'est sa femme.
Alors maintenant, il y a la dernière. Trois amis de Job. Alors nous allons entrer justement dans tout le sujet. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Et alors vous voyez, on a quand même de la sympathie pour ceux qui souffrent, pour ceux que l'on a connus au temps de la prospérité, puis tout à coup on apprend que les malheurs fondent sur eux. On a de la sympathie, on fait même un grand voyage. Il y a Eliphaz de Téman, Bildad de Choua, et Tsophar de Nama. Ça nous fait penser un peu aux trois rois mages. Ils font un grand voyage et ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ah, tous ces gens qui, dans les épreuves, veulent nous consoler. Et ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnirent pas et se mirent à sangloter. Donc, au début, ils ont été absolument sincères, ils sont partis d'un bon mouvement, ils ont voulu aller lui témoigner leur sympathie, et ils ont déchiré leur manteau, ils ont jeté de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, et ils s'assirent avec lui au même niveau par terre, et pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disait une parole. Car il voyait que sa douleur était fort grande. Ils ont su à ce moment se taire. Mais vous savez, il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour se taire. Ils sont restés 7 jours dans le silence. Et demain, alors, nous allons voir la réaction de Job. Ça, il n'a pas pu. Il n'a pas pu l'accepter. Au fond, la visite de ses amis a fait déborder la coupe. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et que demain, vous puissiez lire, avant de venir à l'étude biblique. Maintenant, notez bien les questions que vous voudriez encore poser au sujet de ces chapitres. Nous prions. Dieu notre Père, nous voulons te demander que nous puissions relire ces choses et te demander chacun individuellement de nous dire toi-même par ton esprit ce qui nous concerne dans tout cela, que sur un point ou sur un autre nous puissions être touchés, que nous puissions comprendre un peu mieux tes voix et tes pensées. Et que nous ne puissions pas douter que tu règnes au-dessus de tout. Oui, nous voulons te demander que notre chant-thème de ce livre de Job soit encore « Notre Dieu règne encore ». Pour que nous soyons convaincus que rien ne peut nous nuire et que toute chose travaille au bien de ceux. Donne-nous une nuit de repos et dirige ce camp vers son achèvement selon tes conseils.